appris par cœur, de rire en cœur et d'opinions préfabriquées.
Mais, je tombe à terre, j'en viens pas. Qu'est-ce qui se passe?
Ben non, c'est une joke. C'est une discussion où on met nos tripes à la table. Des sujets qui font réagir le Québec, qui rassemblent, parfois qui divisent.
Hashtag sans filtre.
Voici le Pit Stop.
7h56, minutes, une minute en retard. D'habitude, le pit stop, c'est à 7h55. Je m'en excuse. Denis Gravel qui est là. Salut, mon ami!
Hello, comment ça va?
Ouais, très content de te jaser. Il se passe beaucoup de choses dans l'actualité. On dirait que les gens n'ont pas pris de vacances. Il y a un Hells Angels qui a disparu, les sondages qui paraissent ce matin. Max va nous parler de plein d'autres sujets qui touchent l'actualité. C'est bel et bien repris. Ça n'a pas lâché cet été. On a été chanceux pour ceux qui aiment bien l'actualité.
Moi, je le sais pas. Écoute, ça fait 3 jours que je suis sur un bateau à Miami puis que je fais de la poudre avec des influenceurs. Fait que je suis pas vraiment au courant de ce qui se passe dans votre actualité de minable.
T'as-tu vu la suite F1 de tout ça, Denis?
Ben oui, ben là, ils sont tous partis, là. Les gérants ont appelé les artistes puis ont dit, ben là, vous sautez dans l'avion puis vous le laissez tout seul, là, le bijoutier Colomb, là.
Ouais, hey, 180 000 piastres que ça a coûté pour louer ce beau bateau. 180 000 US pour le louer pendant une semaine. Et ses amis, pis ça, je trouve ça triste, j'aimerais ça parler de ça avec toi, mais ses amis l'ont tous laissé tomber parce qu'il y a eu des commentaires qui étaient effectivement totalement inappropriés. Le gars, cette nuit, en fait, parce que moi, quand je me suis levé cette nuit, j'ai ouvert ma boîte de messagerie, puis il y a des gens qui m'avaient envoyé des vidéos. Le gars avait l'impression que les influenceurs qu'il voyait au travers de son cellulaire, qui sont allés le rencontrer à Miami, étaient ses amis.
C'est un drôle de monde. Oui, ben en partant, c'est un drôle d'individu là, avec des drôles de valeurs, là, si on l'a constaté. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression que fondamentalement, c'est peut-être un gars qui avait pas d'amis à l'école, tu sais, puis qui tripait en regardant le corps arrière de l'équipe de football scolaire qui frenchait la jolie fille, puis tout, puis que c'est un gars qui a développé une certaine jalousie, puis lui, ben probablement qu'il s'est rattrapé avec l'argent, puis il s'est dit, si j'ai de l'argent, je vais avoir du cul, puis je vais avoir des amis, puis clairement, ça marchait pas, là, parce qu'à 180 000 $, ça a de l'air que les filles, ils se mettent pas en bikini, puis à quatre pattes, là, ça, on a constaté son amère déception à ce niveau-là. Puis des amis virtuels, ça reste toujours bien des amis virtuels. Hein? Le soir que tu prends une brosse puis que tu dis le fond de ta passée au reste de l'univers puis que ça passe pas, ouais. Ben eux autres, ils ont tout le business puis ils ont tous leurs intérêts. Le Lewis le fou, il parle à des enfants. Puis s'il perd son public, ben il perd son show au Centre Vidéotron avec Olivier Primo. Olivier Primo, un homme mystérieusement discret depuis 24 heures.
Mais mes fils trippent sur Lewis le fou. Donc,
moi aussi.
Tu sais, moi, quand j'ai vu qu'il faisait partie de ça, puis que ça a pris beaucoup de temps, je trouve, avant qu'on quitte et qu'on dise que les propos n'étaient pas des propos acceptables, là. Ça leur a pris un petit 24 heures de médias qui ont fait leur job et qui ont dit ça n'a pas d'allure avant de. Eux aussi trouvaient que ça avait pas d'allure.
Peut-être un petit appel d'Olivier Primo qui a dit « Là, mon Lewis, t'embarques dans l'avion puis tu reviens chez papa. »
Ouais, c'est, je pense que c'est ce qui est arrivé. Là. Ils se sont tous fait avertir qu'ils allaient peut-être perdre un peu de following. Là.
Ça, c'est l'autre affaire, tu sais. Ce serait le fun que des gens soient capables de par eux-mêmes de dire « Hey, ce qui s'est passé cette nuit, ça dépasse un peu l'entendement, ça dépasse mes valeurs, puis j'attends pas de voir comment la sphère sociale réagit, combien j'ai de likes puis de dislikes, parce que moi, j'étais pas à l'aise, je décide de sacrer mon camp. » Mais c'est vraiment des gens qui ont attendu de voir qu'est-ce qui allait se passer dans leur univers social virtuel avant de prendre la décision de sacrer le camp. Fait que tu sais, moi, je trouve ça judicieux et justifié de questionner l'authenticité de cette prise de position-là. Là. Il y en a peut-être des influenceurs qui sont partis que dans 3 semaines, on va les revoir dans des chroniques virtuelles avec le même gars et le même tweet. Là.
Ouais. Je suis pas un gars très nerveux, Denis, dans la vie. Je n'ai pas peur de grand-chose à part de tout ce qui touche mes enfants. Puis j'ai eu cette discussion-là avec mes enfants concernant le merveilleux monde des influenceurs. Puis je leur demandais ce qu'ils pensaient, puis ce qu'ils voulaient faire dans la vie, puis est-ce qu'ils aimeraient ça, devenir influenceur. Puis heureusement pour moi, ils m'ont dit « Non, papa, ce qu'on veut, c'est devenir policier. » Ben, en fait, il y en a un qui dit « Si mon frère devient policier, moi, je deviens voleur. » Mais techniquement, les deux veulent devenir policiers. Mais le fait que les jeunes s'intéressent à cette culture du vide-là. Est-ce que je suis le seul à être inquiet de ça? Jeff, ça t'as-tu joué dans la tête, ça? De voir que tes jeunes pouvaient être influencés par ces gars-là?
Ah oui, puis j'en parle quand même assez régulièrement avec mes enfants, moi.
Parce que moi, ça me prend des gars de construction dans 5 ans. Là. Ça me prend des gars, qui vont faire de l'asphalte dans 5 ans. Ah, oui. Ils deviennent tous influenceurs, on est dans le trouble.
Mais moi, on parle beaucoup de valeurs. Puis, qu'est-ce qu'ils regardent comme influenceur? Qu'est-ce qui est dit comme message? Ouais. On a des discussions là-dessus parce que je vois pas que mes gars regardent un Julien Médusa de ce monde et disent « Ouais, c'est vrai, hein, qu'à 180 000, il faudrait qu'elle se penche à quatre pattes. » Je pense pas. Je pense que moi et la mère des enfants, ils ont élevé sous des bonnes valeurs. Là. Mais quand même, on n'est jamais à l'abri de ça. Là.
Faut faire attention, par exemple, puis on a eu des échanges avec des auditeurs hier après-midi dans le retour, puis il y en a qui avaient des bonnes observations. Tu sais, si on retombe dans nos années de jeunesse à nous autres, dans le temps de Woodstock 99, on n'avait pas de très beaux modèles non plus. Tu sais, Howard Stern disait un paquet de conneries à la radio. T'avais Ren and Stimpy, puis South Park à la TV. T'avais des émissions de télé-réalité où on nous vendait sensiblement la même chose. Des gens profondément stupides avec de l'argent plein les poches, qui faisait des conneries puis qui s'humiliait pour avoir, c'était pas des likes dans le temps, mais c'était des codes d'écoute. Puis à un moment donné, on dirait qu'on sort de ce courant-là là, de fin d'adolescence, puis on devient des hommes et des femmes peut-être un petit peu plus accomplis. On avait Jackass aussi, hein, ça volait pas haut, Jackass. Puis moi, en 2026, Jackass, je trouve encore ça drôle, tu sais.
Ben moi, l'épisode où deux nains sont en train de se croiser dans un bar, puis le chum de la fille qui est un nain arrive pour que la foire pogne, puis que les policiers qui arrivent, puis les ambulanciers qui arrivent, c'est des nains aussi. À chaque fois, je trouve ça drôle.
De l'humour de base. Écoute, mais tu vois, tu sais, fait qu'il faut relativiser. Moi, c'est surtout de voir, ouais. Tu sais, est-ce que tu écoutes ça parce que tu les trouves tweet? Est-ce que tu écoutes ça parce que tu les trouves drôle? Est-ce que tu les prends au sérieux? Puis, il y a une marge entre écouter des vidéos pour s'amuser, puis, mettons, voir le gars Médusa comme un modèle, puis moi, un jour, je vais avoir de l'argent, puis parce que je vais avoir de l'argent, je vais avoir des amis. C'est peut-être là qu'il faut avoir une discussion intéressante avec nos kids pour essayer de démêler tout ça. Tu sais, à un moment donné, le monstre avec lequel on faisait peur aux parents, c'était les jeux vidéo. Ah, c'est rendu d'une violence inouïe, ça n'a pas de maudit bon sens. Grand Theft Auto, tu peux tirer n'importe qui dans la rue, puis ainsi de suite. Puis là, c'est pour ça qu'il y a des meurtres en série, alors que tu avais des millions de joueurs sur la planète qui ne devenaient pas des psychopathes. Je pense qu'il faut juste avoir des discussions avec nos gamins sur qu'est-ce que tu considères réel là-dedans, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans, parce qu'il y a une marge entre du divertissement, écouter ça avec un grain de sel puis une certaine dose d'humour versus « Hey, ce gars-là, pour moi, c'est un modèle puis je veux devenir un gars comme ça, tu sais. »
Ouais. Malgré que les influenceurs des années 90, début 2000, ça n'existait pas. Oui, on avait certaines influences, puis des fois, c'était des influences qui étaient un peu cabochonnes. Là. Mais on dirait que ce métier-là est de plus en plus rendu accessible. Il y a l'air d'avoir une certaine facilité de devenir un influenceur aujourd'hui. J'ai hâte de voir la suite, mais un peu comme vous autres. Là. Je pense que les discussions qu'on peut avoir avec nos enfants concernant les valeurs et tout ça, sont hyper importantes.
Ouais.
Tu voulais ajouter quoi, quoi, Denis?
Ouais, ben en fait, tu sais, on se demande c'est quoi les qualifications que ça prend pour être influenceur. Je vais dire comme un auditeur m'a dit hier, à une certaine époque, on engageait n'importe qui à la radio. J'avais comme pas de contre-argumentation à ce niveau-là. Fait que...
Statistique Canada fait paraître des chiffres qui sont intéressants. Je sais pas si on peut prendre ces chiffres-là puis les amener à Québec, mais à Montréal, chez les jeunes de 25 à 29 ans, en 1990, il y avait 17% des jeunes qui, en bas de 30 ans, restaient chez leurs parents. Et maintenant, on est rendu à presque 30% des Montréalais de moins de 30 ans qui habitent chez les parents. C'est 3 jeunes sur 10.
C'est du stock, hein?
C'est inquiétant pour nous autres, ça. Moi, à chaque jour, quand mes gars me disent « Papa, j'ai quel âge? Oh, t'as 12 ans et t'en restes 6. » Tu sais, moi, je calcule le temps qu'ils vont rester à la maison.
Ouais.
Mais là, je m'aperçois qu'avec la crise économique, un semblant de crise économique qu'on a, l'argent est de plus en plus rare, les loyers sont très élevés, l'accessibilité aux condos, aux maisons est un petit peu plus difficile. J'ai l'impression que mes gars vont rester à la maison plus que je pensais, là.
Bien, en plus, le marché est pire à Québec qu'il est à Montréal présentement. C'est un marché qui, maintenant, inquiète beaucoup de monde parce qu'on est dans le monde de la surenchère. Puis tu parles à n'importe qui s'est cherché, mettons, une maison dans les deux dernières années. Écoute, en dedans d'une fin de semaine, t'as une trentaine d'offres sur la maison. Des fois, on est bien au-dessus du prix de mise en vente alors que le prix de mise en vente déjà était exagéré. Des gens avec un budget modeste courent après une maison à Québec pendant 2 ans, puis à un moment donné, ils abandonnent. Il y a des auditeurs qui nous ont raconté ça. Moi, je suis curieux de savoir s'il y en a qui nous écoutent ce matin, qui ont pris la décision économique ou qui n'ont pas eu le choix économiquement de dire, ben là, soit qu'on retourne vivre chez papa ou chez maman, ou encore... On vise, comment est-ce qu'on appelle ça, une bigénérationnelle, là, où ce que, pour la fin de vie, au lieu de les placer en centre ou au lieu de garder leur maison, ben, papa puis maman vont revenir à la maison, puis on va vivre avec les enfants, puis grand-papa, puis grand-maman. Moi, je pense que c'est une situation qui va devenir de plus en plus courante, puis c'est pas que les gens veulent pas accéder à leur indépendance. Je pense que pour plusieurs, ça va être un choix de portefeuille puis un choix économique, là.
Hey, je le souhaite pas à mes enfants d'être pognés avec
moi non plus,
dans leur vingtaine. C'est les plus belles années de leur vie. T'sais, moi, je suis parti tôt de chez nous. Tu es parti tôt de chez vous aussi. C'est les plus belles années de notre vie. T'sais, quand on découvre la liberté, quand on est en logement, qu'on apprenne nos erreurs, t'sais, des parties peut-être un peu trop tard, les plaintes des locataires, les plaintes des propriétaires. T'sais, je veux dire, ça fait partie des plus belles années de notre vie. Je peux pas croire que là, les gens vont partir à 30, 35, 40 ans dans une autre maison. Puis oublier ces années-là qui vont être pognées que le vieux bonhomme à la maison.
Ah, écoute, mes années de colocation sont des années exceptionnelles, là.
Papa, mes amis s'en viennent, mets tes culottes. Pensez rester en bobette.
non, mais en effet. Mais c'est là qu'on voit que, tu sais, la deuxième priorité des Québécois, c'est le coût de la vie, là.
Oui,
c'est ça. On le voit avec des histoires comme ça que le coût de la vie vient vraiment changer plusieurs décisions personnelles.
Oui, les sondages légers, Denis, qui sont parus ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon, avec le Parti québécois, est toujours en première position. Les chiffres, pour lui, semblent stagner. On reste à 30 %. Du côté de Charles Milliard, on tombe en deuxième position à 24 %, une perte de 3 points. L'effet Christine Fréchette à la coalition Avenir Québec, ça semble s'être estompé aussi. On est bloqué à 20 %. On était à 21 % au dernier sondage. Pour ce qui est d'Éric Duhaime avec le Parti conservateur du Québec, on reste à 13 %. Et petite montée du côté de Québec solidaire, qu'on s'explique mal, là. On parle d'une augmentation de 2 points. Ce qui est catastrophique pour Charles Milliard, Denis, c'est quand on regarde le vote francophone. Dans le vote francophone, par rapport au dernier sondage, on a une baisse de 10 points. On était à 23 % des intentions de vote pour Charles Milliard et le Parti libéral du Québec. On est rendu à 13 %.
Ça veut dire que les électeurs francophones indécis de moins en moins choisissent Charles Milliard et le Parti libéral. Puis ça, c'est la question qu'ils doivent se poser. Comment on fait pour ramener des indécis? C'est un Québécois sur deux, après tout, qui est pas encore arrêté sur son choix pour la prochaine élection. Comment on fait pour les ramener de notre bord? Ce qu'il y a peut-être d'encourageant pour Charles Milliard et pour tous les autres candidats de tous les autres partis en passant, c'est que c'est peut-être le sondage à prendre le moins au sérieux. Moi, je considère que l'été, c'est comme un grand reset là en politique. Là, il y a rien qui a accroché, il y a rien qui a coulé. Les promesses électorales du printemps passé, là, avec la pré-campagne de Christine Fréchette, ça fait 10 millions d'années là en vitesse politique. Fait qu'on recommence à zéro. Moi, le prochain sondage, c'est celui que je regarderai avec le plus de sérieux parce que là, les politiciens ont commencé à se réactiver. Là, je veux dire, le seul politicien qui a fait parler de lui pendant l'été, c'est Dom Dumas, puis je pense pas qu'il voulait faire parler de lui de cette façon-là. Il n'y a pas eu beaucoup de politique pendant l'été, et c'est normal. Mais là, Christine Fréchette est revenue travailler, Paul Saint-Pierre Plamondon est revenu golfer, Charles Milliard doit être visible, doit être sur les bons enjeux. Éric Duhaime, est-ce qu'il peut étendre son influence au-delà de la région de Québec puis conserver les endroits où il est en avance présentement? Tout ça, ça va être dans le prochain sondage, parce que là, les politiciens recommencent à japper, recommencent à parler, et c'est là qu'on va voir les effets. Par exemple, Charles Milliard fait quelques présentations de presse, trouve un bon slogan, punch comme faut. Si dans deux semaines, il y a un sondage qui sort, puis que tu vois qu'il a bondi de 5% chez les francophones, là, il va se dire, OK, là, je suis ces bons bobos, je suis sur les bons points sensibles, je suis dans la bonne direction.
Ouais, ben, c'est ça, Marc-André Leclerc nous a tantôt, les libéraux, c'est le deuxième choix le plus populaire. Fait que Milliard encore oui. Une porte d'ouverture.
Son observation est très bonne, Jeff, parce que c'est peut-être le chiffre le plus important de ce sondage-là, c'est de voir qu'une personne sur deux, son choix n'est pas arrêté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui présentement voteraient conservateurs qui vont finir par voter pour le Parti québécois. Ça veut dire que des gens qui donnaient peut-être leur vote à la CAQ vont se ramasser au Parti libéral. Des gens qui voulaient pas voter pour la CAQ puis qui sont pas sûrs avec le PQ vont peut-être voter pour les conservateurs. Puis moi, je vois ça comme un signe sain. Les gens se questionnent. Moi, je m'inquiète beaucoup plus des gens qui changent jamais de vision politique. Puis je trouve que dans le contexte actuel, de voir que les Québécois sont prudents avant de faire confiance à des nouveaux chefs, avant de faire confiance à un parti, moi, je trouve ça encourageant. Ça nous montre qu'une campagne électorale, c'est pas complètement inutile. Hey, au prix que ça coûte, il faut que ça serve à quelque chose. Mais ce que les politiciens vont dire et faire, particulièrement dans la région de Québec, dans les prochaines semaines, ça peut faire virer le vent de bord dans n'importe quelle direction. Puis même un gars comme moi qui voit une campagne électorale arriver puis qui fait « Oh, pas encore », ben je commence à être excité un peu de voir les résultats puis comment les politiciens vont jouer avec toute cette indécision-là. Là.
Jeff, te parlais des enjeux qu'on peut voir chez les Québécois dans le sondage léger qui paraît ce matin. Si tu m'avais posé la question hier, c'est selon mes goûts à moi, là, c'est pas selon ce que je pensais que la population allait répondre, ça aurait été, je sais que ça va te surprendre, là, mais éducation, fiscalité et gestion des finances publiques, puis économie et emploi. Je pense qu'à partir du moment où ces trois enjeux-là sont prioritaires, ça peut se répercuter sur le reste. Dans le cas de Jeff, tu m'avais dit quoi ce matin?
Je t'avais dit que ce serait le coût de la vie.
Le coût de la vie, Max, t'avais pas...
L'amour du Québec.
Oui, c'est ça, exactement. Et toi, Denis, ça aurait été quoi?
Présentement, écoute, tout ce qui touche à l'économie des familles, tout ce qui touche à l'insécurité qu'on a présentement. Y a-tu quelqu'un qui a un projet pour nous autres? Y a-tu quelqu'un qui a un plan? Moi, je focus là-dessus d'abord et avant tout.
Je pense que les vieux ont été en majorité ceux qui ont répondu le plus à ces sondages-là. Là. C'est santé et services sociaux qui comptent le plus actuellement pour les Québécois, avec 48%. Coût de la vie, on est à 42%. Logement abordable, 28%. Économie et emploi, 23%. Fiscalité et gestion des finances publiques, 18. Éducation, 18. Et parmi les moins populaires, on parle de transport collectif. On est à 6%.
Oh, je pense que c'est un sujet qu'on a brûlé pour les 20 prochaines années. Là.
Non, mais t'es peur.
Tout ce qui touche, au
transport, du tramway,
on est plus capable.
Denis, tout le monde est excité par le tramway. Tout le monde m'en parle.
Tout le monde est plus capable, je pense. Là. Puis même dans le cas du troisième lien, on l'a vu hier, là, les gens qui veulent en faire la promotion dans la prochaine campagne électorale sont pas vraiment crinqués puis sont un peu débinés justement parce que plus personne croit les politiciens à ce sujet-là. Dans les sujets que tu as énumérés, mais on voit que les inquiétudes économiques, c'est quand même très important parce que tu peux prendre le coût de la vie et les logements abordables puis mettre ça dans la même catégorie. Là, tout ce qui touche les finances, l'économie d'argent, puis ainsi de suite. On vit une insécurité économique, on vit une insécurité au niveau de l'international aussi. Je pense que les gens ont besoin de se faire rassurer, puis pas juste avec des mesures cosmétiques, là. Tu sais, nous donner un chèque de 125 $ là, en grattant les fonds de tiroir, ou pendant deux semaines, on enlève les taxes comme si on était un magasin d'électronique au temps des fêtes. Je pense que les gens méritent mieux que ça, puis je pense que les gens veulent voir de la rigueur économique et un plan de match. Et quel est le parti qui a le plus à gagner en étant un parti adulte face aux enjeux économiques? c'est le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Si on peut arrêter de s'enfarger dans ses propres bottines, puis qu'on peut commencer à parler d'économie en adulte, moi, je pense que c'est un parti qui peut énormément gagner là-dessus, et pas seulement dans la région de Québec.
Dans la dernière semaine, on a appris que la mairesse est un peu dans l'embarras, et Max va nous parler de ce qui va se passer aujourd'hui à Montréal. Fadi Daguerre, qui va prendre la parole dans une conférence de presse. La mairesse de l'arrondissement de ce secteur-là va être là aussi. Mais Madame la mairesse de Montréal ne sera pas présente parce qu'elle ne veut pas répondre aux questions des journalistes. Je te rappellerai qu'il y a de ça quelques mois, on a parlé d'un poste de police où il y avait des policiers totalement débiles qui ramassaient des trophées de chasse. Je pense pas que ce soit 100% des gens au poste de police qui faisaient ça, mais un, c'est un de trop. Et Soraya Martinez-Ferrada était sortie en disant « Oui, oui, mais mon mari aussi, mon mari qui est noir, a des épisodes avec des policiers où il y a du profilage racial. » Tout ça pour dire qu'on a su ce qui s'était passé. Son mari a pogné 5-6 contraventions pour excès de vitesse. Il conduit le char de sa femme et c'est la raison pour laquelle il est intercepté par les policiers. La madame est un peu gênée et elle s'est fait prendre. Elle n'a même pas payé ses tickets, ce qui fait en sorte que son véhicule a été remorqué. Dans ce cas-ci, on nous parle d'un changement d'adresse qui n'avait pas été fait, donc elle n'aurait pas eu accès à ses billets de contravention. Mais n'en demeure pas moins qu'elle ne veut pas répondre aux questions. Max, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Fadi Daguerre, qui est le directeur du SPVM, va se présenter et lui va répondre aux questions. C'est la première fois que publiquement là, on va aborder tout ce qui s'est passé après ces révélations-là sur les fameux gestes racistes qui auraient été commis par des policiers du côté de Montréal-Nord. C'est arrivé le 12 juin dernier que 16 agents avaient été retirés de leur fonction de patrouille, deux qui ont été suspendus, le dossier qui est examiné par le DPCP. Du côté de Fadi Daguerre, on veut présenter un état de situation devant la Commission de la sécurité publique de Montréal et le SPVM dit vouloir profiter de cette crise-là pour provoquer un changement de culture.
La mairesse, je trouve qu'elle l'a facile un peu.
Elle devrait être là. Je sais que souvent, on va sortir l'excuse de on veut pas mêler la politique et les forces de l'ordre. Je me souviens que dans certaines circonstances à Québec, au fil des années, on expliquait l'absence d'un maire pour ce genre de point de presse-là sensiblement de la même façon. Mais je pense qu'il y a moyen de diriger les questions aux bonnes personnes puis que la mairesse devrait faire face à la musique. Surtout quand tu sous-entends que même ton mari est victime de profilage, puis finalement, il est pas victime de profilage, là, il est victime du fait qu'il va vite en char, là, comme n'importe qui va vite en char. Je pense qu'elle devrait faire face à la musique. Un politicien qui s'absente dans ces moments-là va toujours perdre aux chances.
Ouais, moi, je pense qu'il y a du racisme au Québec, puis il y a de la xénophobie. On parle d'un 2-3%, puis c'est un 2-3% de trop, mais que c'est avec l'éducation, puis le fait qu'on va côtoyer ces gens-là, que le 2-3% va peut-être baisser un peu. Mais ce que je trouve qui nuit à la cause, là, c'est des gens qui en profitent pour faire passer leurs idées en disant « Oui, le racisme existe. La preuve, mon propre conjoint. » Ben, ça nuit aux vraies victimes du racisme.
Oui, tu as raison.
Quand tu te fais prendre,
absolument.
Tu disais un peu, ça n'a pas de Christie de bon sens que tu inventes une histoire de même alors que c'est pas la bonne histoire pour faire passer tes idées. Mais ça nuit aux gens qui ont vraiment été victimes de racisme. Je trouve qu'elle paraît très mal, puis je trouve ça dommage parce que c'est quelqu'un que j'aimais bien, Soraya Martinez-Ferrada. Elle se fait comprendre de tout le monde, c'est une bonne porte-parole. Elle n'a pas de l'air à l'avoir eu facile dans la vie.
On est elle a de l'air humaine.
Humaine.
Elle a cette capacité-là. C'est bien peu de politiciens qui ont de l'air d'humain ordinaire avec qui on peut relater, puis elle a cette force-là, cette simplicité-là, puis c'est pour ça qu'elle devrait avoir un micro, puis qu'elle devrait répondre aux questions du monde, puis si elle a ajusté certaines choses qu'elle a dit dans les dernières semaines puis les derniers mois, ben je pense que c'est la tribune idéale pour le faire. Puis passer le bon message aussi. Il y a un message intéressant à passer par rapport au fait qu'on peut tous tomber dans le piège de la victimisation à outrance. Puis on veut pas que notre société devienne une grande game au mondial de soccer où tout le monde est à terre puis qu'ils font semblant d'avoir bobo. Là. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se blesser pour vrai. Puis c'est cette personne-là qu'on va remettre en question, tu sais.
Exact, exact. Puis les billets de contravention, bien, normalement, sont remis en main propre. Tu sais, s'il arrive quelque chose, c'est on va vous l'envoyer par la malle, monsieur. Mais normalement, le monsieur, là, le chum de Martina Ferradès-Soraya, il a reçu le billet de contravention. Fait que ça explique pas le changement d'adresse, là, puis l'oubli de payer sa contravention. Là. Fait qu'elle paraît très mal. Je trouve ça dommage, mais elle sera pas là à cette conférence de presse. Ouais. Denis, je te salue, je te remercie. Salutations à Arthur, qui fait partie de la conversation. On t'apprécie beaucoup, Arthur, c'est toujours le fun.
Là, c'était une première aujourd'hui. Là. Fait que les gamins sont venus voir l'installation. Tout le monde est dans la chambre. Là. Fait que je dis des niaiseries devant mes enfants, encore.
Ouais. Let's go!
Ben, tu parles assez fort, Kenny Wee, ils peuvent pas parler ensemble, ils s'entendront pas.
Salut!
Salut Denis, bye bye. Denis Gravel dans le pit stop, il va être avec nous. C'est comme ça tout le temps en fait, à tous les jours, 7h55. On vous présente Denis pendant une bonne vingtaine, trentaine de minutes.
Les vendredis aussi maintenant en plus.
Oui, on l'a réussi à le gagner le vendredi. Ça n'a pas été facile.
Non, il a fallu.
Il est dur en affaires, il fallait négocier.
Il a fallu travailler fort.
C'est ça, ça, il a fallu travailler très très fort. Puis, non, je peux pas faire cette joke. Là, c'est encore trop récent, mais peut-être que je la ferai la semaine prochaine.
T'es con.
Qu'est-ce qu'il y a?
Non, 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 j'ai lu dans ta tête.
Oh, je pense que... Ouais.
On ouais. était plusieurs à le faire.
Bon, ben puisqu'il y a un malaise présentement, dis-moi donc ce qui se passe à la route.
Rien, fait que tu peux continuer. Là. T'allais où?
À la pause.
L'application Boulevard...